Ah ouais, il y a du monde. Yvan m'a dit, c'est la dernière, c'est là où il y a les jeunes. C'est vrai, est-ce qu'il y a des jeunes? Ah, il y a des amis à moi là-bas, je vois des Igmar là-bas. Igmar Leblon, je te salue. Soyez bénis, en tout cas, c'était pas prévu que je sois là ce week-end avec vous. J'ai eu la nouvelle vendredi soir, parce qu'il y avait une petite problématique qui se passait pour Yvan, et de pasteur, et il y a un pasteur qui ne pouvait pas être là. Et il m'a dit, Marc, j'ai dit, bah ouais, comme un miracle, ce week-end, je ne prêchais pas, je ne faisais pas, on avait un invité dans notre église à Voisins-le-Bretonneux. Donc j'ai dit, bah ouais, ça tombe bien. Et puis il m'annonce, il me dit, on a pas trois cultes, on a quatre cultes. Je dis, ah ouais, c'est cool. Mais c'est une joie d'être là parmi vous. Alors, j'aime bien préparer mes messages. Je suis un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, suisse pour préparer mes messages. Je prends mon temps. J'aime bien voir mon texte avant, pendant toute la semaine, repasser mon texte, tout ça. Et vendredi après-midi, en plus, j'avais un week-end chargé. On avait un concert hier. Donc, j'ai dit, waouh, bon, ben, on va se mettre devant le Seigneur. Et il y avait un conseil de mes professeurs qui disait toujours. J'ai fait des études de théologie. Il me disait, Marc, quand tu n'as pas le temps de préparer une prédication, tu reprends une vieille. Il vaut mieux prendre une bonne vieille prédication que tu as bien préparée, que tu connais bien. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Tu as quelque chose de bien fait. Mais, pardon, mes professeurs, si vous m'entendez, mais je ne suis pas trop comme ça, moi. Vous savez, c'est comme les plats qu'on a bien mangé, mais il nous reste toujours à la maison. Si vous êtes que deux, vous en avez fait pour quatre, par exemple, il vous reste une part et vous le mettez au congèle. Et des fois, ça reste 6 mois, 1 an, 3 ans. Vous ouvrez le congèle, ah ouais, la paella de la grand-mère là qui est restée depuis 4 ans dans mon congèle. Non, 5 ans. Oui. Et c'est bon hein, quand on la ressort, mais c'est pas pareil que les produits frais. Et dans ma vie, j'aime bien avoir des paroles fraîches du Seigneur. J'aime bien, parce que je crois que le Seigneur, il nous a donné une Bible, elle est vieille de presque 4000 ans. Et les écrits, il y en a des un peu plus modernes, mais les premiers écrits, c'est, on va dire, ouais, 3000 ans. Et pourtant, elle m'amène au quotidien des choses fraîches. Et vraiment, je me suis dit, Seigneur, donne-nous des choses fraîches. Alors j'ai pris un temps dans la prière, encore hier soir tard, tôt ce matin, et pour vraiment recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et un texte qui est ressorti vraiment fort dans mon cœur, j'aimerais le lire avec vous, un texte que vous connaissez sûrement par cœur, mais un texte qui va nous bénir. On pourrait se lever ensemble pour lire la parole de Dieu, si vous le voulez bien, si vous le pouvez aussi. C'est le moment le plus important de notre réunion, la lecture de la parole de Dieu. C'est là où Dieu a mis ses secrets, ses trésors pour nos vies. On va lire dans Marc, l'évangile de Marc, un des meilleurs évangiles, si ce n'est le meilleur, puisqu'il s'appelle Marc comme moi. Et l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule. Et je me disais, j'entends pas tourner les pages. Et oui, c'est la réunion des jeunes et il n'y a que des iPhones. On entend les. Matthieu, chapitre 5, verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Oui, ils sont là. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qu'il s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce texte, qui l'a déjà lu? ou qui a déjà entendu une prédication là-dessus. Ouais, vous le connaissez. Et quand on connaît un texte, le gros problème qu'on a, c'est qu'on passe dessus, on connaît la fin, la perte de sang, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle est guérie, hop là, c'est passé. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce texte. Un texte qui nous parle d'une vie de souffrance, d'une femme qui est meurtrie. Meurtrie en elle-même. Meurtrie par un vécu. Et ça fait... elle a un temps de souffrance qui est long, hein, 3 mois de souffrance, où elle vit la souffrance. Ah, merci. Il y a une sœur qui m'arrête. Il y en a une qui suit. Le reste est en train de s'endormir sur l'iPhone et en train d'envoyer des SMS. C'est ça? Ça fait... Non, combien de temps qu'elle souffre, cette femme? 12 ans. 12 ans de souffrance. C'est pas rien. C'est pas un jour. C'est pas 3 mois. C'est pas 1 an. 12 ans de souffrance. Vous vous rendez compte? 12 ans de souffrance que ça fait? 12 ans, c'est... Quand on a un enfant de 12 ans, il est déjà rentré au collège, il est en 5e normalement, à 12 ans. Et eh bien, c'est 12 ans de souffrance dans sa vie. Elle vit... C'est intéressant de regarder ce détail. Je me suis posé la question. Des fois, dans la parole de Dieu, il y a des chiffres qui nous parlent. Et 12, si je vous dis 12 dans la Bible, ça vous fait penser à quoi, à part là? Les 12 apôtres. Les 12 tribus. Bien. Sortez les pierres en lapide un frère. Les 12 tribus. Les 12 tribus, pourquoi elles sortent d'où les 12 tribus? Pourquoi on est 12? Et les 12 fils de Jacob, exactement, ça vient de là. 12 apôtres. Il nous est raconté aussi un autre texte où il y a un miracle que Jésus fait qui est magnifique, la multiplication des pains. Il va rester dans un texte 12 corbeilles. 12 corbeilles. Et le chiffre 12 dans la parole, souvent, il est allié avec une croissance, une multiplication. Quand Jacob a des enfants, il va y avoir une croissance chez lui, une multiplication, alors qu'au départ, ses femmes étaient. Il y avait de la stérilité. Eh bien, il va y avoir une multiplication, il va y avoir 12 enfants. Ces 12 enfants vont donner un peuple, une nation, 12 tribus. Il y a une croissance, il y a une multiplication d'un homme, ça fait 12, et de 12, ça fait un peuple. Et quel peuple? Le peuple qui a le nom de l'Éternel. Un peuple qui va grandir, même quand ils sont en Égypte, les Égyptiens, ils ne savent plus quoi faire avec eux, tellement ils sont nombreux, tellement il y a une croissance à partir de 12. Jésus, il ne va pas prendre 5, il aurait pu prendre 7 apôtres. Les croyants, on aime bien le chiffre 7 et on sait que Dieu bénit autour, mais il en a pris 12. 12 comme pour faire démarrer son église. 12 disciples, 12 apôtres, et nous sommes un peu les descendants, comme les 12 tribus et les 12 fils de Jacob ont donné un peuple, et nous sommes un peu les descendants du travail des apôtres qui, avec 12 hommes, il va y avoir une révolution parce que Jésus vit en eux, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et à partir de 12, il va y avoir une croissance et une multiplication. Et quand Jésus, quel magnifique miracle, quand il va nourrir les foules, il nourrit pour maintenant. Il nourrit les gens, ils ont bien mangé, mais il va rester 12 corbeilles pour après. Il y a encore plus que maintenant, il y a pour la suite, il y a de la multiplication. Et on pourrait se dire, ah ben cette femme, elle a 12 années dans sa vie. Et pourtant, ce n'est pas 12 années de croissance, ce n'est pas 12 années de multiplication, ce n'est pas 12 années de bénédiction. C'est 12 années de perdu, 12 années de perte. Il a dit qu'elle a une perte de sang. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Le sang, pour nous, ça représente la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui se blesse et qui a une grosse tache de sang, des fois dans des accidents, vous voyez, il y a presque des mares de sang. Oh, on sent que la vie s'échappe là. Et il y a du sang qui part, on se dit, ouh là, il y a un gros problème. Cette femme, ça fait 12 ans que son sang s'échappe. Ça fait 12 ans qu'elle perd peu à peu sa vie qui est en elle. Et 12 années de perte, 12 années de perte de sang, 12 années de perte de vie en elle, 12 années aussi de perte d'argent. Elle avait peut-être des économies, mais il nous a dit qu'elle est allée voir les médecins, elle a dépensé tout son argent pendant ces 12 années pour être guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et même, il nous a dit, c'est même pire qu'au début. Elle a perdu sa vie, elle est en train de perdre son argent, elle a perdu aussi... Pendant 12 ans, vous savez, quand une femme avait une perte de sang, quand elle avait une perte de sang, une femme a été considérée, selon la loi juive, comme impure. Et quand elle était impure, elle n'avait le droit de toucher aucune personne. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Sinon, elle rendait l'autre impure. Et donc, on se séparait d'elle pour pas être impure. On voulait pas la toucher. Sauf que 12 années, imaginons peut-être qu'elle était mariée ou pas, mais elle devait avoir de la famille. Pendant 12 années, elle n'a pas le droit de toucher quelqu'un. Elle n'a pas le droit de dire bonjour, d'avoir une accolade, d'avoir de la tendresse, de prendre la main de quelqu'un. Pendant 12 années, aucun contact. Quand on lit rapidement ce texte, on dit, ouais, la femme a la perte de sang, tout ça. 12 années sans contact avec quelqu'un. Et on le sait. Et ça se connaît. Et 12 années sans contact, elle est exclue de la société. On ne veut pas l'approcher de peur d'être impure. Et cette femme se retrouve mise de côté. Elle a perdu 12 années, 12 années de vie, de sang qui coule, 12 années d'argent et 12 années de vie sociale, de tendresse. Tout ça, c'est fini pour elle. Quelquefois, cette femme me fait penser à nos vies ou à des vies de croyants que je rencontre, qui connaissent les bénédictions de la parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets le royaume des cieux en premier et tu recevras beaucoup. Si on s'approche de Jésus, il y a des bénédictions, il y aura des fleuves d'eau vive. Et les gens écoutent les prédications, savent qu'il y a une bénédiction et pourtant, ils passent par des temps de désert, des temps de sécheresse, des temps de maladie et où il semble que il y a un doute qui vient s'installer dans leur vie. Comme cette femme qui faisait partie du peuple de Dieu, hein, c'est une juive, hein. Elle fait partie du peuple d'Israël qui doit recevoir la bénédiction, qui doit recevoir la guérison, qui porte le nom de Dieu. Pourtant, elle est exclue de toutes ses promesses parce qu'il y a une perte de sang, il y a une perte, et selon la loi, elle devient impure. Combien de croyants je rencontre, et ça m'est arrivé aussi dans ma vie, d'avoir ces temps où on se dit je suis privé de la bénédiction de Dieu. Est-ce par ma faute? Est-ce par autre chose? Mais je ne comprends pas. Là où il devrait y avoir la croissance, la multiplication, là où il devrait y avoir du 12 bénéfique, il y a du 12 pas du tout bénéfique. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que de la détresse, il y a de la déprime, même de la dépression quelquefois. Cette femme se retrouve face à elle-même, mais elle entend parler de Jésus. Quelqu'un qui peut tout changer. Mais entre elle et Jésus, il y a des barrières. Premièrement, il nous est dit que Jésus était tout seul sur la place publique avec elle, c'est ça? Non, ah, il y en a qui, voilà, réveille-toi, dis à ton frère, c'est pas ça, écoute, il nous fait une blague pour qu'on réponde qu'il y avait une foule, merci. Il y avait une foule qui entourait Jésus. Qui dit foule? Si, par exemple, il y a une foule, et que je dois aller toucher une personne qui est là-bas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je traverse la foule. Sauf qu'il y a un problème dans la vie de cette femme. C'est quoi le problème? Elle est impure. Ok, vous me suivez toujours. Il y a une loi qui est écrite, qui est connue de tout le monde. C'est que si cette femme impure, elle s'approche des gens, il y a toute une foule qui la sépare déjà de Jésus. Combien de fois dans nos vies, on vient à l'église, on se dit ça serait bien, ça serait vraiment bien maintenant que ça change dans ma vie, ça serait bien qu'il y ait une bénédiction dans ma vie, mais quand on se met sur la chaise et même si on chante et tout ça, on a une foule de choses qui nous séparent de notre Jésus. Il y a des contextes particuliers, il y a des inquiétudes qui nous font fait que quand on chante les chants, on n'est pas là, on chante il y a une belle mélodie, on est un peu entraîné, et tout ça nous donne envie de bouger, mais on chante pas vraiment à hein, Jésus. On est en train encore de passer du temps à passer aux inquiétudes. Ça nous est tous arrivé quand on prie, et le matin on se dit, Seigneur, je veux passer du temps dans ta présence. Et pas que je rate le rendez-vous à midi avec un tel, parce que sinon mon travail ça va pas aller, et mon fils qu'est-ce qu'il va faire à l'école ça va pas, hein, et au bout de 3 minutes on se dit oh Jésus, pardon, excuse-moi. Puis là il y a le portable qui sonne, il y a une foule de choses qui peuvent prendre nos vies. Et puis quelquefois il y a cette loi impure qui est tatouée sur notre peau, sur notre chair. Comme dit Paul, mais qui me délivrera de cette chair de mort qui me tient? Et cette femme, elle a une idée folle, j'allais dire suicidaire. Si seulement je touchais le bord de son vêtement, je serais guéri. Pourquoi je dis suicidaire et folle? Parce que, un, elle doit passer au travers de la foule. Imaginons, peut-être qu'elle est du bled d'à côté du village, personne ne la connaît, mais malgré tout, elle se dit, s'il y a quelqu'un qui me reconnaît, je suis mal. Il faut que je touche les gens. Mais si seulement je pouvais m'approcher. Quand elle dit si seulement, c'est aussi une folie parce que plus que toucher les autres, au cas où elle les rend impures et je sais pas, on la met dehors, mais si elle touche un maître de la loi, comme Jésus, qui était considéré comme un rabbin, alors là, ça devient grave. On peut même la lapider. Parce qu'elle va toucher, en gros, le saint des saints. Et toucher Jésus, mais c'était impossible d'y penser. D'ailleurs, la réaction, il nous est dit qu'elle est toute tremblante quand Jésus se retourne et dit « Qui m'a touché? » C'est une idée folle que cette femme a. Parce qu'elle est considérée comme impure et qu'elle va toucher le pur. Vous savez, je ne suis pas là cet après-midi pour parler, pour venir vous dire « Vous êtes pécheur. » Et ça, on le sait. Et je le sais dans ma vie. Que je n'ai pas le droit de m'approcher de Jésus. Normalement, j'ai pas le droit. C'est le saint des saints, c'est celui qui est pur. Et pourtant, il a tout accompli pour moi. Et c'est pas la loi du péché qui peut m'empêcher d'approcher Jésus. Parce que Paul va s'écrier, mais rien d'entre rien, dans Romains, il va dire, ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ça, rappelez-vous, gravez-le sur votre cœur. Quand ça va pas, quand il y a la loi peut-être du péché qui parle dans votre cœur, qui vous dit, t'es impur, tu peux pas t'approcher, tu peux même pas venir dans l'église, tu peux à peine chanter, t'asseoir au fond, mais demander la bénédiction de Jésus, c'est impossible. Mais il y a une autre loi, c'est la loi de l'amour, c'est la loi qui est possible. Rien, on va dire Paul, ne me séparera de l'amour de Dieu, ni le diable, ni les dominations, ni la mort. Il y a rien qui peut me séparer de lui, parce que le prix a été payé. J'aimerais voir avec vous un autre texte où on a un peu une histoire un peu similaire. Ça se trouve dans Esther, au chapitre, ça y est, j'ai plus les idées claires, chapitre 5, verset 1 à 5. Alors, Yvan m'a dit, le dernier culte, tu peux te permettre de prêcher au moins 1 h 30, si ce n'est 3 heures. Ils tiennent le coup, c'est la dernière, j'entends un amen, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Et en plus, vous n'avez pas pris les pierres pour me lapider, donc c'est bon. Allez, on pourrait se lever ensemble encore une fois pour lire la parole de Dieu. Ça nous fait respirer. Et on se concentre. Il nous est dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Alors j'arrête juste ma lecture pour dire vêtements, c'est pas tout à fait ça, c'est symboles royaux. C'est-à-dire, par exemple, comment on reconnaît un roi? Les rois de France, on les reconnaît comment? Il avait une couronne, il avait une cape. Souvent, le roi de France bleu avec des fleurs de lys. Les rois, souvent, ils ont des grands colliers, ou les reines, elles ont des grands colliers, des sceptres et une couronne. Et Esther, elle a mis ses symboles royaux. C'est-à-dire que quand elle est arrivée dans la cour, on a dit, ah ouais, c'est la reine. C'était pas une petite princesse ou quoi que ce soit, c'est la reine qui arrive. Elle met des symboles royaux. Se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Vous pouvez prendre place. On a une femme, pourquoi je dis un peu de. C'est un peu le même problème pour elle. Elle vit dans un temps de grande, elle, de bénédiction, où c'est pas mal autour d'elle. Ce que le monde lui offre, c'est bien même. C'est-à-dire qu'elle est reine. Elle a le droit à tout. Elle a le droit aux plus beaux bijoux. Elle a le droit aux meilleurs cosmétiques, L'Oréal, les crèmes de soins de cheveux pour la peau, tout ce qu'il faut, crème de nuit, crème de jour. Il y a déjà des sœurs qui sont en train de se dire. Les plus belles tenues Dolce Gabbana et Chanel, wow, le merveilleux, les sacs Louis Vuitton, tout, elle a le droit à tout, quoi. Et elle est bien, elle est dans un contexte, waouh, bien. Un peu comme nous, quelquefois, quand, par exemple, on est à l'église de Créteil, vous êtes dans un super bon contexte. Je pense que même si on n'est pas croyant, c'est bon d'être là. c'est bon de venir, on connaît des gens, on a des amis. Dans le monde aussi, il y a des endroits où on aime bien être, on appelle ça des clubs ou des groupes, on est ensemble pour vivre des bonnes choses ensemble. Et en bas, il y a une cafétéria, vous pouvez manger du couscous merveilleux, j'en ai goûté à midi, c'était super bon, merci les sœurs. Et on peut vivre des temps ensemble, il y a même des baby-foot, il y a des activités. Il y a de la musique qui est super bien, il y a des bons musiciens, ça bouge, ça danse, et en plus on a des amis. Et c'est des bijoux pour nous, c'est des vêtements, on est bien ensemble. Sauf que pour Esther, malgré qu'elle soit la reine, et Mardoché va lui rappeler, il va lui dire, au fait, même si t'es reine, il y a une loi qui vient de passer. Cette loi, c'est une loi de mort. C'est dans quelques jours, tous les juifs du royaume, ils vont être mis à mort. Il y a une loi de mort sur ta vie. T'as beau avoir des bijoux, t'as beau être bien, t'as beau venir à l'église de Créteil, chanter sur de la bonne musique, manger bien, être au top, bien entouré, il y a une loi de mort sur ta vie. Cette loi, on pourrait l'appeler la loi du péché. Et il nous a dit qu'Esther, elle va se mettre à part, elle va dire, priez pour moi, je vais me mettre en jeûne et prière, je vais prendre du temps et je vais aller me présenter devant le roi. C'est intéressant de remarquer dans le livre d'Esther, il y a un mot qui manque. Vous le connaissez? Oui, bien. Il n'y a pas le mot Dieu. Dans tout le livre, c'est le seul livre de la Bible où il n'y a pas le mot Dieu à l'intérieur du livre d'Esther. Et pourtant, il est tellement présent. Il y a des images fortes. Alors, moi, je le comprends en tout cas un petit peu comme ça. On peut le voir un parallèle où Esther va s'approcher du trône. C'est un roi païen, mais nous pouvons nous approcher du trône de Dieu pour demander la grâce, pour qu'il nous donne ce sceptre. Et comme je disais, voilà le verset 1, le troisième jour, Esther mit ses symboles royaux. Il y a un symbole royal qui nous a été donné pour s'approcher du trône du Père. Là où dans nos vies, il y a une loi qui est inscrite dans nos gènes, dans notre chair, c'est la loi du péché qui, comme dit Paul, elle nous empêche de faire le bien. Même là, quand on réfléchit, on dit, oh, j'aimerais faire ça. Et dans ma jeunesse, je me souviens des fois des moments compliqués où je savais que j'étais croyant, tout ça, mais je savais que ça, c'était bien, j'avais envie de le faire. Mais ma chair, elle m'attirait irrésistiblement ailleurs. Il y avait une loi de mort sur ma vie. Eh bien, il y a un symbole royal à mettre. Ce symbole, je crois que c'est le symbole de la croix. Jésus qui meurt à la croix et qui dit avec ça, avec ce symbole sur sa vie, cette croix que tu as gravée dans ton cœur, cette mort de Jésus, quand on prend la Sainte Cène, c'est ça, c'est la mort de Jésus pour nous, ça nous permet de venir devant le trône du roi, même s'il y a une loi qui est contre nous, même si le roi peut dire non, normalement tu devrais être mis à mort. Il nous tend le sceptre parce que sur nos vies, il y a un symbole royal et j'aimerais entendre un grand amen cet après-midi. Il y a le symbole de la mort de Jésus dans nos vies. Combien j'aime regarder le texte de cette femme à la perte de sang. Le Seigneur Jésus va la regarder, il va lui dire, ta foi t'a sauvée. Là où tu passes. Là où tu as cru, là où tu t'es dit, je vais m'approcher, je vais passer au-delà de mes limites, au-delà de mon impureté, au-delà de ce qui me condamne, je passe, je viens et je veux toucher, si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus. Cela me rappelle aussi une autre histoire, c'est l'histoire de Jacob. Vous connaissez Jacob, hein, on a parlé de ses 12 fils. Jacob, il nous a dit que son nom a été changé. Jacob, il a eu un deuxième nom, c'était Israël. Ouais, ils sont bons là, cet après-midi, non, vraiment pas, hein. Ce matin, au premier culte, j'ai posé la question et ils m'ont dit Noé. Non, je plaisante. Jacob est devenu Israël. Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il a lutté avec Dieu et il a vaincu. Il a été trouvé vainqueur. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Jacob, petit homme, il a été trouvé, il a lutté avec Dieu, il a été trouvé vainqueur. Comment on peut battre Dieu? Quand on réfléchit, Dieu, il aurait juste fait une petite pichenette du bout des doigts, comme ça. Et Jacob, il faisait 3 fois le tour de la terre. Et encore, on le verrait dans le ciel, comme les satellites, vous savez, il passerait comme ça. Un souffle, une parole, il aurait été éjecté, pulvérisé. Pourtant, il lutta avec Dieu et il fut trouvé vainqueur. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Il y a un papa, il y a que un papa, deux papas. 3, 4, ah ouais, c'est bon, hein. Il y a quand même des papas. Est-ce qu'il y a des papas, ou alors peut-être des enfants qui se rappellent, puisqu'il y a des jeunes parmi nous, est-ce que vous avez déjà joué à la bagarre avec ou vos enfants ou avec votre papa? Est-ce qu'il y a des enfants ou des parents qui ont déjà joué à la bagarre? Joué, hein, je dis, hein. Moi, j'ai deux filles. J'ai une bénédiction d'avoir des filles, mais normalement, les filles, c'est pas fait pour la bagarre. Et je vais dire que nenni! Non, c'est pas vrai, ça. Parce que quelle fois je suis sur mon lit en train de faire la sieste après un bon repas, tranquille, c'est le jour de repos, c'est Shabbat Shalom, je suis tranquille chez moi. Et là, j'ai deux espèces de petits gnomes qui m'attaquent en surprise, qui sautent sur le lit. C'est la bagarre et ça attaque. Avec 10% de ma force. Si je mets un revers à l'une d'elles, elle se placarde contre le mur, ça finit en hurlant, en pleurs, elle va chercher maman, c'est cause de divorce presque, elle appelle la police, enfin, hop là, c'est pas ça que je suis en train de dire. On n'est pas là en train de taper les enfants, mais on joue à la bagarre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à chaque fois, qu'elle soit une ou qu'elle soit deux, qui c'est qui gagne? Vous étiez là? À chaque fois, c'est elle qui gagne. Pourquoi? Parce que j'aime me laisser gagner. J'aime voir mes filles qui sont sur moi en train de dire « On a gagné, papa! » Crier, hurler. C'est un moment de joie, c'est un moment de passion. C'est pas un vrai corps à corps, mais c'est un vrai cœur à cœur. Il y a quelque chose qui passe entre nous. Et je crois que Jacob, quand il est en train de lutter avec Dieu, mais oui, il aurait pu être pulvérisé juste avec une parole, un souffle de la bouche de Dieu, et c'était fini pour lui. Mais il y a une passion, il y a un cœur à cœur qui est là entre Dieu et Jacob. Il y a comme une bagarre qui est en train de se prendre. Et Jacob, il dit, je te lâcherai pas tant que tu ne me bénis. Je te lâche pas. Et Dieu va dire, tu as lutté avec moi et tu as été trouvé vainqueur. Comme cette femme qui s'approche. Qui s'approche, il y a une foule entre elle et Jésus. Il y a une loi de mort sur sa vie, c'est opération suicide, elle y va. Mais elle dit, si seulement je le touche, je sais que je serai guéri. C'est ce pas de foi que je veux amener dans nos cœurs cet après-midi. Ça fait peut-être des dizaines de fois que tu luttes contre la loi du péché dans ta vie. J'ai envie de te dire, c'est pas par tes propres forces que tu vas y arriver, mais c'est en allant toucher le bord du vêtement de Jésus, c'est en disant, Seigneur, je veux lutter, mais avec toi, je veux faire la bagarre, je veux que tu, Seigneur, tu me donnes la victoire cet après-midi. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me séparer du péché, il n'y a que toi qui peux me faire passer de la loi du péché qui me condamne à la loi de l'amour, à la loi de la grâce. Peut-être ce texte nous parle de maladie. Et cette femme, elle était vraiment malade. Peut-être qu'il y a des malades cet après-midi parmi nous. J'ai envie de te dire, mais viens t'emparer de la bénédiction. Viens faire comme Jacob, tu t'accroches, tu t'agrippes et tu dis Seigneur, cette maladie, Seigneur, je veux que tu me l'enlèves, je veux que tu me guérisses comme cette femme que tu as touchée. Seulement je peux te toucher, je viens. Et combien j'aime la parole de Jésus qui va lui dire, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvée, il y a du salut pour cette femme. J'aimerais dire pour nous cet après-midi, il y a du salut. Amen. Cet après-midi, il y a de la paix. Quand Jésus vient, et je disais, les bénédictions du Seigneur, souvent, et j'entends quelquefois des prédicateurs qui me désolent vraiment. Ou la bénédiction du Seigneur, si tu vas être riche, tu vas être fortuné, tu vas prospérer dans ton travail, parce que si tu es un chrétien pauvre, tu n'es pas un chrétien en gros. Mais ça, c'est faux, ça, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la richesse du monde que le Seigneur veut nous donner. D'ailleurs, même le Seigneur, il dit, faites gaffe aux richesses, parce que ça peut vous amener loin. Et le Seigneur, souvent, il reprend plus l'argent que l'adultère, par exemple, si vous regardez dans le Nouveau Testament. Souvent, l'argent, elle revient parce qu'elle peut agripper. Ça peut être une loi qui nous amène à la mort. Mais ce n'est pas ces bénédictions-là que le Seigneur veut nous donner. Mais il donne la paix. Il n'y a rien de mieux que de se lever et avoir dans le cœur un chant, une louange et dire, Seigneur Jésus, même si on passe dans l'épreuve, ah, oh, il y a ta paix, il y a ta joie. Le psalmiste va dire, je me couche. Et c'était David, et je m'endors en paix, alors que j'ai Saül derrière moi qui veut me tuer, tout ça. Je me couche et je m'endors en paix. C'est toi qui es ma paix. Et vous savez, Paul, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il écrit ça dans le livre de Philippiens. Et quand il écrit cela, on sait qu'à cette époque-là, C'était trop bien pour lui. Il était dans une grande, grande, grande villa avec une grande piscine. C'était la première piscine à vagues avec des spas et tout. Et on lui servait, dès qu'il faisait ça, il y avait le Coca-Cola frais. Il y avait déjà le Coca-Cola, hein, si vous ne le saviez pas. Avec les machines à glaçons, les premières machines à glaçons qui arrivaient, les glaces, tout ça. Et là, il y a déjà des jeunes qui sont en train de partir. Oh, la glace. Il fait chaud, j'aimerais bien avoir une glace et un Coca avec, qui fait cling, cling, cling. Et voilà. Et donc, notre cher Paul, quand il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il dit cela parce qu'il sait qu'il y a un million de shekels d'argent sur son compte en banque, parce qu'il sait qu'il a la Ferrari avec 8 chevaux devant son garage. Il est au top. C'est ça. Vous savez d'où il écrit Philippiens? Ouais, il est en prison. Sinon, là, imaginons, il y a une milice qui arrive, qui monte, la gendarmerie nationale, qui dit « Monsieur, mesdames, maintenant on a décrété, c'est la loi qui vient de passer, le culte est interdit, et si vous êtes chrétien, on vous met en prison. » Donc, il y en a qui arrivent à s'échapper de ça, mais 80% on part en prison. Premier réflexe, si on a encore notre portable sur nous, parce que maintenant on va avoir le droit au portable, en prison, et si on a notre portable, qu'est-ce qu'on va faire? On va téléphoner à notre famille, on va dire « Ah, c'est le malheur !» Je suis en prison, c'est terrible, viens me chercher, mais une caution, je n'ai pas fait quelque chose, je vais mourir, on mange mal, c'est une catastrophe. Paul, en prison, et il nous raconte sa vie aussi. Au passage, hein, il dit, on m'a, je ne sais plus combien de fois, donné des coups de fouet, une quarantaine de coups de fouet sur mon dos, oh, super. On m'a donné des coups de bâton. Je me suis fait jeter des synagogues. C'est comme si je prêche là et que vous me prenez par la fenêtre, vous me jetez parce que vous ne supportez pas ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, de grâce, non. Il nous a dit même qu'une fois, ils l'ont pris, ils l'ont lapidé et ils l'ont laissé pour mort. C'est pas la piscine, c'est pas la Ferrari devant le garage, c'est pas le compte en banque plein. Pourtant, il va dire « Je me réjouis dans le Seigneur » alors qu'il est en prison. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Il y a quelque chose dans sa vie qui se passe. Et ce quelque chose dans sa vie, c'est qu'il a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus. J'aimerais lire un dernier texte avec vous, alors que j'appelle les musiciens à venir se placer devant moi, derrière moi, pardon. Ce texte, il se trouve dans Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel? C'est pas un chanteur de rap, hein. C'est un prophète de l'Éternel, c'est un prophète de Dieu. Cet homme-là, pour moi, c'est le prophète le plus fou qui est dans la Bible. À un moment donné, le Seigneur, il lui dit, bah, pendant un an, tu te couches sur le côté droit et il va se mettre pendant un an pour donner un symbole. Enfin, il y a des trucs atroces qui se passent dans sa vie et il doit donner une symbolique toujours. Mais cet homme-là, il a des visions de Dieu, mais grandioses. Il passe par des moments difficiles, mais qu'est-ce qu'il... Il a vraiment une bénédiction de voir le Seigneur et il nous donne une aperçu de la présence de Dieu. Cette présence qui a changé la vie, qui a guéri la vie de la femme à la perte de sang. Cette présence qui a conduit Esther à sortir et à sortir tout un peuple avec elle. Cette présence de Dieu qui permet à Paul, qui permet à Paul de dire, même si je suis en prison, battu, je sais que je peux me réjouir. Pas je sais, je me réjouis dans toi, Seigneur. On va lire ce texte ensemble. Il nous a dit, il me conduisit à la porte, il a cette vision, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Je crois que cet après-midi, il y a la gloire de Dieu. Et si on avait des lunettes infrarouges, infra-spirituelles, où on pouvait voir, je suis sûr que là, il y a la présence de Dieu qui s'avance. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Elle s'avance. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. C'est-à-dire, le batteur, quand il joue, c'est 5% des bruits des grandes eaux. Vraiment quelque chose qui, si la voisine, elle entend, de suite, elle appelle la police. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. Il y a tellement la gloire de Dieu qu'il tombe sur sa face. La gloire de l'Éternel, elle avançait, hein, vous vous rappelez? Mais maintenant, elle entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Et vous vous rappelez? La gloire de Dieu, elle avance. Elle rentre dans la maison et là, et voici la gloire de l'Éternel remplit c'est la maison. On continue. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Combien j'aime ce verset où il nous est dit, je poserai la plante de mes pieds. On a vu la présence de Dieu qui avance, qui rentre et qui remplit cette maison et où Dieu vient poser les pieds. On parle souvent qu'on est, vous savez, une église pentecôtiste, on est le peuple du Saint-Esprit, on est le temple, on le chante, on est le temple du Saint-Esprit. Et quand je discute avec les gens, souvent, pour eux, le Saint-Esprit, c'est un frisson. C'est quelque chose qui passe. C'est comme si Dieu soufflait sur nous et qu'on sentirait une brise un peu chaude ou fraîche, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui passe. J'ai envie de dire, ouais, ok, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on dit nous sommes le temple ou la maison, là, c'est la maison ou le temple, c'est pareil, du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est la maison où Dieu veut avancer, veut entrer et veut remplir la maison où Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui peut guérir, celui qui peut détruire la loi du péché, veut poser la plante de ses pieds. Waouh ! Mais là, ça me donne les frissons quand je pense à ces choses-là. Qui a été adolescent parmi nous ? Il y a trois mains. Il y a des personnes qui sont nées vieilles parmi ici. Laissez-moi les voir. Alors, vous êtes nés... Non. Et qui a été adolescent parmi nous ? Et quand j'étais adolescent, ma chambre était rangée comme un militaire, au carré. Tout était propre, pas un grain de poussière. Vous êtes déjà venu dans ma chambre quand j'avais 14 ans ? Ma chambre, c'était un chaos à 14 ans. Parce qu'à l'adolescence, on est un peu chaos dans la tête, donc c'est toujours un chaos quelque part. Et alors, il y avait des routes vélo, il y avait des instruments de musique, il y avait un vieux sandwich qui devait traîner par là. Elle dit pas, ah, c'était pareil dans ta chambre. Il y avait des vieux vêtements, enfin, il y avait tout, quoi. Et les parents, ils mettaient des fois à peine la tête, ils osaient passer, alors là, ça criait, enfin... Et puis, mes parents, ils aimaient bien inviter des personnes. Et mon papa avait construit la maison. Et donc, c'était un peu, pas une fierté, mais les gens lui demandaient, ah, comment t'as fait ça? Et donc, ils montraient un peu la maison à chaque fois. Et ils disaient, bah, là, c'est le salon, tu vois, je l'ai fait comme ça. Et les chambres. Et donc, quand il y avait du monde à la maison, ils visitaient ma chambre. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais quand même un peu d'amour propre. Je rangeais ma chambre. Mais je rangeais une technique particulière. Je prenais toutes les affaires, j'ouvrais les grands placards. Je me mettais dedans, je poussais, on essayait de plier les choses et plop, on fermait à clé avec un canard pour pas que ça se rouvre. Et c'était nickel. Mais les gens, ils étaient de passage. Ils restaient pas dans ma chambre. Quelquefois, dans nos églises, dans nos vies, Dieu, il est juste de passage le dimanche. On est avec les frères et sœurs et on a un peu nettoyé devant, on a un peu dépoussiéré, on a tout rangé dans les placards. Surtout que le placard saute pas, que le verrou saute pas. Qu'il n'y ait pas une prophétie qui dénonce ma vie. Et Dieu, on l'invite de passage, on prend le petit moment de Sainte-Seine. Et quelquefois, c'est dur, c'est pas un jugement que je dis, mais des fois, on prend la Sainte-Seine, ça m'est arrivé, hop là, oh, le vin il est un peu bizarre aujourd'hui. Hein. Le pain, il est un peu rassis. Hein. Ouais, t'es au quatrième culte, fallait venir au premier, il était frais. Et on est comme ça, et on oublie que c'est le sacrifice de Jésus. Ouais, c'est sympathique, on est bien, c'est le club ici. On oublie que c'est la mort de Jésus qu'on est en train de prendre. Et on oublie que Seigneur, il ne veut pas être celui de passage. Il est celui qui veut avancer, qui veut rentrer, qui veut entrer. Rentrer et avoir la plénitude. Il nous est dit que quand il vient, là où il a mis les pieds, toute la maison fut envahie, inondée. Quand tu habites chez quelqu'un, Même pendant une semaine, tu vois comment il range sa maison. Et le Seigneur, il veut habiter tout le temps et il veut ouvrir nos placards. Mais il n'est pas là pour nous condamner, pour dire « Ah ben là, tu es cuit, tu ne peux pas me toucher, tu seras toujours dans ce chemin de malédiction. » Non, il veut ranger le placard avec nous. Il veut nettoyer, il veut faire du frais dans nos vies. Il veut, avec son souffle, mettre un souffle de vitalité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une petite brise qui passe, c'est Dieu qui vient mettre ses pieds, qui vient, qui pose ses pieds, qui avance, qui rentre et qui inonde nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et pendant qu'il y a ce chant, on va prendre un chant. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu vis dans le péché. Et ça nous est tous arrivé. J'aimerais dire, je suis passé par l'adolescence comme tous, mais je suis aussi né dans le péché et j'ai vécu dans le péché. Et j'ai une chair qui me rappelle qu'il y a une loi sur moi qui est la loi de la mort. Et que si je ne fais pas attention, je peux mourir et je peux retomber dans le péché. Mais je sais aussi qu'un symbole royal m'a été donné pour briser la malédiction de la loi de la mort sur ma vie. Et j'aimerais te le rappeler cet après-midi. J'aimerais aussi rappeler que s'il y a une femme il y a 2000 ans qui a été guérie, aujourd'hui c'est encore le temps de la guérison pour toi, maintenant. Et ce que Jésus va dire, c'est « Sois guérie de... » alors qu'elle était guérie déjà, mais « Sois guérie pour ton après ». C'est le Dieu de maintenant, mais qui a 12 corbeilles de miracles encore pour ta vie future, pour ta bénédiction. C'est le Dieu aussi qui veut te rappeler, qui... Il est à la porte. Tu peux le laisser juste dans une pièce, mais tu peux le laisser t'envahir pour le servir, pour donner plus, pour réveiller l'appel qu'il y a dans ton cœur, peut-être que tu as enfoui, que tu as mis aussi au fond du placard avec les autres choses. Le Seigneur est là pour te relever, te guérir. Et cet après-midi, j'aimerais, je sais qu'on fait souvent des appels, mais ce n'est pas par habitude que je veux faire ça. C'est si tu passes par un moment où dans ta vie, tu sens qu'il y a des choses à nettoyer, à la loi de la mort, mais que tu voudrais en sortir et que tu voudrais inverser la courbe du temps de la malédiction, de la maladie et des mauvaises choses dans un temps de croissance, multiplication. Alors approche-toi et viens toucher le bord du vêtement. Viens lutter comme Jacob en s'accrochant à Dieu. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es béni pour recevoir plus de lui. Alors si tu as... Peut-être que tu es malade, approche-toi du Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses à régler dans ton cœur, tu veux que le Seigneur dépoussière ta vie, peut-être ton ministère, peut-être ton appel. Alors approche-toi, on prie ensemble, je me tiens devant avec toi, on va intercéder, on va auprès du Père pour toucher le bord de son vêtement. N'hésitez pas.
Se lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Malgré tous mes problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ton feu. Tout est possible quand je lève les mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Problème. chant qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ton fait. Quand je lève mes mains, une part d'eau s'en va. Tu me donnes une nouvelle force. Oh oui, tout est possible. Oh oui, tout est possible. Quand je lève mes mains. Tout est possible. Oh oui, tout est possible. Quand je lève mes mains.
Oh oui, tout est possible.
Oh oui, tout est possible. Oh oui, tout est possible. Quand je lève mes mains.